Vous êtes bien sûr _ à l'écoute de Radio Méga, déjà un demi-siècle pour mon vieil ami Gic. Il est barbu, ses cheveux sont grisonnants et sa voix de plus en plus chevrotante. Ça reste entre nous mais parfois je ne le trouve pas très net.
Bonjour Cécile.
Bonjour Emma Human.
Et bonjour. Ah bah non, il est pas là, Roudoudou.
Bah non,
bon, on fait des gros poutous.
Ouais, parce que voilà, il avait besoin de se reposer, donc on le retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et alors, effectivement, de notre temps, nous avons effectivement à fêter l'anniversaire d'un autre ami qui est un peu barbu.
C'est Alain. C'est à l'internet.
Non, à l'internet. Bravo, mais oui, parce que nous allons fêter les 50 ans de l'internet avec vous et on va vous parler de ce sujet qui ne fait que de parler de lui-même. Mais tout de suite, passons aux fails du mois.
Alors, il y a l'actu, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on a ? On a même un générique.
Fail du mois.
On ne s'en lasse pas.
C'est clair. Alors, le fabricant d'armes jouait Nerf, met des DRM dans ses fléchettes et ses lanceurs, qui donc refuseront de tirer des munitions tierces. Apprendre la guerre aux enfants, c'est bien, mais il faut surtout pas leur apprendre à changer de fournisseur de munitions, hein ?
Eh ben ouais. La fondation Gnome poursuivie pour violation de brevet sur leur outil de gestion de photos Shotwell. Encore un brevet logiciel débile utilisé par un patent troll. Ouais, c'est bizarre qu'ils osent pas s'attaquer à Apple, par exemple.
Un procès pour cambriolage dans lequel un accusé est suspecté uniquement pour avoir été identifié par un logiciel de reconnaissance faciale, quand on connaît le taux de faux positifs de ces machins.
Ouais, il va falloir choisir entre un PC plein de LED et la sécurité, car les pilotes de certaines cartes mères Gigabyte sont percés et laissent même accès à un microcontrôleur reprogrammable aux applications.
C'est pas mal.
Et, ouais.
Une vulnérabilité dans le format PDF a priori non contribuable, non contournable, qui permet de déchiffrer des documents.
Linus Torvalds valide l'ajout de la fonctionnalité Lockdown dans le noyau, qui restreint l'accès à certains systèmes, y compris aux routes. Si elle peut être utile d'un point de vue de sécurité, elle posera certainement des problèmes à des utilisateurs qui veulent légitimement router leur téléphone, par exemple, pour reprendre le contrôle de leur machine.
Oui. Microsoft aurait masqué, en tout cas pour rendu moins évidente, la création d'un compte local sur Windows 10 pour inciter les gens à créer un compte en ligne. Oh là là, c'est pas bien,
ouais,
ça.
Ouais, en fait, il y a le bouton, ils ont renommé le bouton, enfin un truc que tu peux pas deviner ce que ça veut dire, quoi, en fait. Alors attention, il semble qu'il y ait une nouvelle attaque de ransomware ciblant PHP MyAdmin et les NAS QNAP. Protégez-vous et faites des backups réguliers.
En parlant de ransomware, une dizaine d'hôpitaux aux US et 7 en Australie ont dû fermer pour cause de services informatiques paralysés.
C'est ballot. 172 applications malveillantes détectées sur le Play Store par i7 et totalise 336 millions d'installations. Donc ça fait beaucoup.
C'est joli, hein. Les US, le Royaume-Uni et l'Australie exigent encore une fois des backdoors dans les applications de messagerie de Facebook.
Mais c'est mal. Urgent 11, un ensemble de failles que l'on pensait uniquement existantes dans VxWorks, qui existe en fait dans IPNet, une pile TCP/IP très ancienne et utilisée par de nombreux OS en réel, dans de nombreux matériels embarqués, notamment médicaux.
Adobe bannit ses utilisateurs vénézuéliens à cause de sanctions décrétées par le gouvernement américain. Les utilisateurs auront jusqu'au 28 octobre pour télécharger tout contenu stocké dans leur compte et perdront l'accès le lendemain. Non, mais vous imaginez ça. Non.
Eh ouais.
Là, je suis révolté, là.
Une class action contre des fabricants de condensateurs accusés d'entente sur les prix.
Twitter aurait utilisé les numéros de téléphone récoltés pour la sécurité, pour la publicité. Oh, c'est pas monétisé, tout ça.
Non, non. La France, premier pays européen, a utilisé la reconnaissance faciale officiellement avec l'application Alicem, qui ne plaît pas du tout à la CNIL.
Le CERT-FR publie un nouveau rapport d'analyse pour alerter d'une menace informatique dont le mode opératoire vise spécifiquement les prestataires de services et les bureaux d'études à des fins d'espionnage.
Voilà, ça fait une bonne couche de fail du mois.
Bien sûr, passons à une petite pause musicale.
Une petite pause musicale.
J'espère que ça vous a plu parce que moi, beaucoup, Malmain, Distant Around My Heart. Donc c'était une bonne chiptune comme on aime sur Underscore. Et tout de suite, nous allons passer au sujet du jour qui était Internet.
Le
retour, parce qu'effectivement, ouais. Internet, on en a déjà parlé, on a déjà évoqué le Deep Web.
La neutralité du net.
Et donc, du coup, c'est un sujet qui nous touche tous. Et puis voilà, fêter les 50 ans, c'était l'occasion de reparler de tout ça. Des réflexes qui aujourd'hui nous semblent si naturels et pourtant... Tout est conditionné par un élément qui nous fédère tous. Je vous laisse découvrir ce qui pourrait arriver à une famille telle que celle de Stan dans South Park si Internet venait à manquer.
Ça suffit, Internet, Stan. Tu dois aller dormir.
5 minutes, il y a encore des trucs à faire.
Maintenant, Stanley. Internet peut très bien attendre demain matin. Éteins.
Oh, merde.
Shelley, déconnecte Internet et va te coucher.
Maman, je suis en train de chatter avec mon petit copain du Montana.
Tout de suite, Shelley.
Pourquoi est-ce que tu me hais?
Oh, Randy, tu peux te déconnecter?
Non, non, s'il te plaît, encore un peu.
Non, monsieur, il est l'heure d'aller se coucher.
Mais Sharon, je dois encore faire plein de trucs. Je dois vérifier le taux de crédit, je dois envoyer un email à Nelson et voir si l'agence de voyage a envoyé les photos.
C'est inutile que tu fasses tout ça maintenant. Je te laisse faire une dernière chose et tu viens te coucher.
Faire une dernière chose.
Ça sert à plein de choses, Internet. Alors, le lendemain...
C'est quoi, ce délire? Stan! Stan, j'ai besoin de ton ordinateur.
Quoi?
J'ai plus Internet, j'ai besoin de me connecter. Allez, laisse papa tout seul 5 minutes, hein, tu veux?
Mais j'ai plus Internet, moi non plus.
Quoi?
Papa, il y a Internet qui ne veut plus marcher.
Ah, oh, je suis au courant.
J'ai rendez-vous online avec mon chéri Amir avant de devoir partir à l'école. Randy, aucun de mes emails ne veut s'ouvrir.
S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, compris? Tout va rentrer dans l'ordre. Il ne faut pas paniquer. Gérald, aide-nous, s'il te plaît. Randy, mais qu'est-ce qui se passe? À la maison, on n'a plus Internet.
Oh, mon Dieu.
On n'a plus rien. Aucune connexion.
Terrible. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans South Park?
Ouais, alors, la série qui est regardable sur Game One, hein, qui passe régulièrement. Et qui se passe dans l'épisode, on va pas tout spoiler, hein, mais bon, il y a des histoires d'ectoplasme après. Bon, c'est South Park. Hein. Ouais.
Et donc, du coup, ils n'ont plus Internet.
Mais ils n'ont plus Internet. Et puis, alors, y a une rumeur qui se répand. Je crois qu'il reste encore un peu d'Internet en Californie. Donc, en fait, tout le monde va en Californie pour essayer d'avoir un petit peu d'Internet. Quoi.
Et bon, Internet, mais bon anniversaire. Nous allons donc fêter les 50 ans d'ARPANET, ce que nous pourrions appeler effectivement l'ancêtre d'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Mais Internet, c'est quoi? Alors, selon Wikipédia, hein, Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau de réseaux, d'où le nom Internet, contraction de Internetwork, à commutation de paquets sans centre névralgique composé de millions de réseaux, aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes, AS pour Autonomous System. Il y en avait plus de 91 000 en 2019. L'information est transmise via Internet grâce à un ensemble de standardisés de protocoles de transfert de données qui permet des applications variées comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, le peer-to-peer, le World Wide Web. C'est l'apparition de ce dernier qui a popularisé effectivement Internet dans les foyers. Internet et le web sont effectivement donc deux choses différentes. Hein.
Effectivement.
Hein, parce que Internet donc ne se résume pas qu'au web. Le web, c'est quoi en fait? Ben, c'est nos pages hypertextes.
Ouais. C'est ce à quoi on accède quand on utilise un navigateur web, justement. C'est pour ça que ça s'appelle un navigateur web. Alors qu'Internet, c'est l'ensemble de réseaux qui permet d'accéder au web, mais aussi à toutes les autres applications, chacune utilisant un ou plusieurs protocoles spécifiques pour permettre les communications entre utilisateurs, comme l'email, le FTP, IRC, le web aussi, et plein d'autres.
Bien sûr, mais qui a inventé Internet?
Difficile de répondre à cette question. Néanmoins, Xerox, encore une fois, pourrait être le pionnier en la matière avec la création du câble Ethernet. Alors, Ethernet, c'est En fait, une couche physique, c'est une des façons d'accéder à Internet. Hein. C'est les fameux câbles, ce que certains appellent les câbles Wi-Fi. C'est une aberration.
Mais... Non, le câble Wi-Fi.
Eh ouais, bah oui.
Tu l'as entendu,
non,
ça,
ça s'appelle un câble Ethernet. Alors à l'époque, il était coaxial. Hein. Les premiers, c'était pas des paires. Bon, il y a plusieurs façons, effectivement, du point de vue physique. Et puis après, il y a les protocoles, le fameux protocole TCP/IP.
Oui, rien ne se ferait sans ça. Et le fruit de, en fait, qui a inventé Internet pour beaucoup, c'est le fruit de la collaboration entre plusieurs universitaires, des instances gouvernementales américaines. Mais pas que, il y a aussi des hippies, hein, comme tu me disais tout à l'heure.
Alors c'est vrai que l'armée a lancé un peu la chose, parce qu'en fait, ARPANET, au départ, c'est une idée du DARPA, en fait. Hein. DARPA, c'est une partie de l'armée américaine qui essaie de trouver des idées d'armement et de trucs pas forcément très bien. Mais le but, au départ, c'était quand même de construire un réseau qui pouvait survivre à une attaque nucléaire. Donc, pouvoir router les paquets ailleurs si un nœud tombait en panne, quoi. Mm.
Donc, au dire de certains, Internet n'est pas né seulement d'une volonté, mais aussi d'une intervention collective de différents acteurs, comme même des sociologues qui ont pensé à Internet avant même que ça existe, dans les années 50. Et fort, quand même. Hein. Et bien sûr... Je vois aussi que c'est aussi la création de hippies qui prenaient du LSD, donc pas que des sociologues finalement.
Pas que des sociologues, ouais. Alors justement, ça a été raconté notamment dans le documentaire Une contre-histoire de l'Internet, créé entre autres par Jean-Marc Manac, qui est journaliste. Donc on vous mettra des liens, hein, comme d'habitude, sur AAA.fr.
Bien sûr, alors on a tous en tête l'idée d'ordinateurs connectés les uns aux autres, partageant des informations entre eux. Ainsi, l'idée de partage est une philosophie délivrée par les libristes. Hein. Car oui, sans leur intervention, Internet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, accessible à une panoplie de machines complètement hétéroclites.
Ouais, et surtout, ça serait que un grand centre commercial. Alors, c'est quand même en grande partie vrai, malheureusement.
Oui.
Mais pas que, heureusement d'ailleurs. Et puis, on vous a déjà parlé aussi de la déclaration d'indépendance du cyberespace, hein, par John Perry Barlow, un des fondateurs de l'EFF. Donc du coup, il y a quand même des gens qui ont pensé, pas que techniquement, mais aussi d'autres choses autour d'Internet. Même si ce qu'ils avaient pensé au départ, ça a pas forcément, c'est pas forcément ce qui est arrivé. Et d'ailleurs, certains s'en désolent. Notamment Félix Traeger, qui a écrit justement un bouquin sur la désillusion de cette utopie. On vous mettra tout plein de liens.
Alors, rappelle-moi un petit peu le modèle OSI.
Oui, alors on avait déjà abordé dans notre numéro 89, oula c'est vieux ça, hein, en parlant de la neutralité du net, le modèle en couches OSI. Donc le principe, c'est de séparer les différentes fonctions d'un réseau en 7 couches protocolaires bien isolées, donc chaque couche s'occupant d'une fonction sans avoir à connaître quoi que ce soit sur les couches supérieures. Alors ça c'est la théorie, parce que des fois il faut quand même avoir une petite idée de ce qui se passe en dessous ou en dessus, mais en fait voilà, il y a 7 grandes couches, donc il y a la couche physique, notamment les câbles Ethernet, hein, RJ ou coaxio, le Wi-Fi, y a plein de normes là-dessus.
Oui, il y a les liaisons, Ethernet et Wi-Fi.
Alors, il y a la couche liaison qui, en fait, définit une façon notamment d'adresser les machines sur ce réseau. Donc, ce n'est pas des adresses IP, là, c'est par exemple des adresses MAC. Et puis, il y a la couche réseau, donc la troisième couche, la fameuse couche où intervient le protocole IP. Il y a la couche transport. Donc là, il y a UDP, TCP et puis quelques autres protocoles. Après, il y a 3 autres couches, la couche session, la couche présentation et la couche application, qui souvent sont plus ou moins mélangées, parce que certaines applications, en fait, mélangent un peu les 3 autres couches. Elles sont moins séparées, elles sont moins formalisées, en général.
Ah oui, et puis bon, forcément, le protocole TCP/IP, on parle de TCP/IP parce qu'il s'agit de 2 protocoles différents. Donc IP, Internet Protocol, c'est celui qui relie effectivement toutes les machines entre elles et transporte les paquets de l'une à l'autre. Et TCP, Transport Control Protocol, c'est l'un des protocoles de la couche supérieure qui s'assure que l'information est bien transportée dans l'ordre en retransmettant au besoin. Mais d'autres protocoles existent aussi, comme l'UDP, qui est parfois utilisé pour la vidéo. et qui a surtout besoin de l'information qui arrive rapidement, quitte à en perdre quelques-unes sur la route. Imaginez un camion qui transporte des oranges et puis...
Ouais, c'est pas grave, s'il y a un peu de jus, on veut quand même que des oranges arrivent.
Voilà.
Bah, c'est, voilà. Pour la vidéo, c'est pas forcément grave si on manque, qu'il manque certains bouts, mais on veut pouvoir l'afficher l'image rapidement, quoi. Donc même s'il y a des petits carrés sur l'image, au moins on a une image, quoi. Alors que TCP, ben, lui, s'il manque un bout, il va redemander de renvoyer ce bout-là et il va attendre en fait que ce bout-là arrive pour balancer la suite en fait. Donc sur certaines applications c'est moins pratique. Mais c'est vrai que c'est quand même TCP qui est le plus souvent utilisé, donc c'est pour ça que on parle de TCP/IP. Donc si on voulait transposer TCP/IP sur un modèle postal, on aurait par exemple l'adresse MAC, ça serait la position GPS qui change pas pour une maison. Puis il y aurait l'adresse IP qui serait en fait l'adresse postale de l'immeuble. Et parfois elle change parce que des fois les maires décident de renommer les rues, surtout quand il y a des fusions. Il y a eu pas mal de fusions de communes en ce moment, donc il y a deux fois la même rue dans chaque ville et tout, donc il faut renommer les rues.
Oui, il y a l'adresse source aussi, qui est celle qui on met au dos de l'enveloppe pour obtenir une réponse.
Voilà, donc en fait, dans les paquets IP, il y a une adresse source et puis une adresse destination. Donc il faut que quand le paquet arrive, on sache d'où il vient. Alors il y a certaines adresses qui sont privées, c'est pour... comme quand on dit c'est le bureau 203, machin, c'est pas vraiment une adresse, même si des fois on peut le mettre sur des enveloppes, mais dans IP en tout cas, c'est pas comme ça que ça marche.
Donc le port serait un nom ?
Alors par exemple, du coup, c'est le destinataire vraiment du courrier. Donc ça, c'est au niveau du port de la couche, du protocole de la couche au-dessus. Hein, TCP et UDP ont ce fameux concept de port. Donc souvent, un port, ça équivaut à un service. Par exemple, le port 80, c'est le port qui est utilisé pour le protocole HTTP. Donc au-dessus du protocole TCP, qui est lui-même au-dessus de IP, on peut utiliser le protocole HTTP qui va essayer de se connecter au port 80 par le protocole TCP à l'adresse 192.machin en IP, quoi.
Oui, donc la plus grande question qu'on peut se poser, la plus grande question philosophique, c'est à quand l'IPv6 ?
Ça, je sais pas. Parce qu'en fait, ça fait 30 ans que ça existe, hein. J'ai regardé, ça date de 90 quand même.
Ouais.
Et c'est toujours pas déployé partout. Enfin, on l'a dit, il n'y a pas longtemps, il faut que ce soit une dictature qui décide.
Oui, la Russie a décidé que l'IPv6 allait être appliqué.
Ouais, la Biélorussie, ouais. Enfin voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça.
Et oui, et puis il faut se remettre en tête que non, Internet, c'est pas le web. Il faut bien se résumer que bien qu'à son arrivée, ça a révolutionné la manière de présenter avec les langages hypertextes. Pour vous donner un exemple, à la création de Mosaic par le CERN, qui était l'un des premiers navigateurs graphiques, ça a permis vraiment des échanges vraiment très conviviaux. Aussi, le commerce, ou plutôt l'e-commerce, qui n'était pas présent à l'origine, a pris sa place aujourd'hui dans le domaine du business. D'ailleurs, même l'État se préoccupe du retard que certaines entreprises peuvent prendre vis-à-vis du numérique. Car oui, à l'échelle mondiale, on met en concurrence des milliards d'entreprises susceptibles de rencontrer un client par cet intermédiaire.
Bah oui, ça relie toute la planète. Donc du coup, on peut contacter tout le monde, quoi.
L'agilité accrue avec l'arrivée de la fibre dans nos foyers, les réseaux téléphoniques de plus en plus mis à jour avec des technologies sans fil, sont autant de vecteurs qui nous permettent de rester accrochés à cet univers et qui devient omniprésent dans toutes les actions de notre quotidien.
Mais alors l'Internet, mais est-ce que c'est écologique ça ?
Eh bien pas vraiment, parce qu'en fait le stockage en ligne est l'outil par excellence qui est le plus promu par de nombreuses entreprises. Le principe vous permet de stocker de vos données sur des supports dédiés. L'avantage se trouve principalement dans l'absence de maintenance. En revanche, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode pour conserver sur le long terme nos données, car il y a des contraintes non négligeables en termes de propriété des données, mais aussi en termes d'accès.
On a dit déjà tout à l'heure Adobe qui supprime l'accès à certains dans certains pays parce que les États-Unis veulent pas. Etc.
Oui, oui, non, donc, mais Adobe qui empêche des utilisateurs d'utiliser leurs données.
Eh ouais, mais c'est comme ça. Donc vous avez donné vos données à Adobe et du coup ils se sont servis, quoi.
Alors c'est vrai que les comportements des gens se déportent de plus en plus vers l'internet des services avec le streaming, qu'il soit musical ou vidéo. Et que
même
ce soit aussi pour les jeux. Hein,
nous... Ah oui, la dernière tendance, c'est carrément de faire tourner des jeux vidéo en fait sur des serveurs.
Oui.
Et en fait, d'utiliser en fait le téléphone portable par exemple, juste pour afficher en fait ce que le jeu produit, l'image que le jeu produit. Et donc en fait, il y a plus de calcul quasiment qui est fait sur le téléphone. Donc on peut avoir des téléphones pas trop cher pour faire tourner des jeux 3D machin, sauf que du coup bah en fait il faut une bande passante et très très large pour pouvoir envoyer toutes ces vidéos quoi, donc c'est vraiment ridicule.
Et oui, nous possédons de moins en moins nos données physiques et on bénéficie de plus en plus d'usages dans le streaming. On peut noter aussi que Steam a été récemment attaqué par rapport à sa politique où justement tu n'es pas propriétaire des jeux. Et là, ils ont réussi. Il y a certaines instances.
Alors c'est l'UFC
ont...
que choisir quoi. On ouais. avait parlé. Ouais. Alors là, c'est encore une histoire. C'est par rapport à la location. C'est le fait que même si effectivement tu le télécharges le jeu, mais en fait tu le télécharges dans l'application et tu peux pas vraiment faire une copie et tout. Donc pour la revente, c'est compliqué de revendre un jeu. Mais bon.
Oui. Mais voilà. Là, je et crois puis, qu'ils ont gagné. Hein.
Ouais. Alors sur le streaming, c'est en plus c'est vraiment ridicule pour la planète et aussi du point de vue de l'infrastructure parce qu'en fait ça oblige à avoir un gros tuyau. Alors c'est pour ça que d'ailleurs les fournisseurs d'accès veulent que Google paye et que YouTube paye parce que tout le trafic va vers YouTube.
Oui.
Parce qu'il faut un gros tuyau puis il faut des gros serveurs. Alors qu'en fait le peer-to-peer au contraire ça optimise la bande passante parce qu'en fait on distribue la charge sur plein de machines qui sont à côté.
Mais oui, sauf que le peer-to-peer s'associait aux méchants pirates.
Ah les méchants pirates.
Et les pirates qui piratent beaucoup de données.
Mais sauf que ça peut être utilisé pour des utilisations légales aussi.
On est d'accord, mais moi c'est vrai que je me souviens à l'époque où moi j'avais internet à la maison en ADSL et que d'un coup le soir le réseau tombait parce que tu pouvais même plus lire une vidéo YouTube.
Et non.
Alors que maintenant sur ton téléphone en 4G t'y arrives quoi.
Ouais.
Alors il y a aussi l'internet des objets connectés. Hein,
oh mon dieu.
Eh oui, tel un dieu, internet est omniscient. À savoir que dans votre quotidien, il se loge absolument partout. Il se lave de votre téléphone à votre enceinte, en passant par votre frigo, sans oublier votre voiture. Et pourtant, à notre insu, celui-ci demande beaucoup de ressources. Cette partie invisible du réseau devient de plus en plus une préoccupation stratégique et politique. Hein. Parce que dans ce contexte de mise en garde face à cette dépendance de plus en plus accrue dans notre quotidien, puisque tous les objets connectés ont besoin d'avoir un réseau Internet quoi, pour pouvoir communiquer, que ferions-nous si nous subissions un blackout ?
Je sais pas, on montrait des réseaux mèches et puis moi, mes chaussures, elles sont pas connectées.
Tes chaussures sont pas connectées ? Ouais. Alors néanmoins, effectivement, il faut regarder de près. Internet, ça a vraiment facilité beaucoup de choses, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges entre les gens. Mais néanmoins, c'est quand même...
Ça permet aussi plein de trucs pas bien, comme le contrôle de la population. Enfin, quand on voit ce qui se passe en Chine, dans certains pays, qui filtrent, qui bloquent, qui surveillent. C'est ce que ce dont je parlais justement avec cette utopie déchue. C'est ça. Hein, en gros, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui pensait qu'Internet pourrait libérer les gens. Alors c'est vrai que ça a été utile pour par exemple les printemps arabes hein, parce que ça leur a permis de se mettre en relation et puis de décider de sortir dans la rue et de manifester et tout, mais ça permet aussi parce que tout est connecté, ça permet aussi de surveiller tout le monde quoi. Donc
et oui, comme quoi hein, on n'est plus vraiment anonyme déjà sur le net avec la reconnaissance faciale, toutes les images de vous sont déjà bien identifiées.
Ah. Surtout ceux qui les notent sur Facebook hein, c'est pas forcément un cadeau à leur faire à vos amis sur Facebook.
C'est clair.
Et ouais.
Néanmoins, on est content que ça existe. Hein. Que ferions-nous sans Internet aujourd'hui ?
Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuierait ?
On serait obligé de se parler, tu te rends
compte ? Ouais, on serait obligé de se parler, de lire des bouquins.
Ah quoi. Non, je peux pas là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on crée les alchimies, parce que nous, on a fait des manifestations informatiques justement pour permettre aux gens de sortir de l'Internet et de se rencontrer en vrai. Ça, c'est bien aussi.
Ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, pourquoi on n'a pas de connexion ?» Pendant longtemps, on n'a pas eu de connexion Internet pendant les alchimies.
Oh oui.
Il y a plein de gens qui nous demandaient. On a fini par faire en sorte que, mais
c'est pas notre priorité.
C'est pas le but.
C'est clair.
Et puis, pensez à faire vos mises à jour avant de venir à l'alchimie. Ça évite de pourrir notre bande passante.
Oui, merci. Hein. Une petite pause.
Allez.
On se retrouve tout de suite après pour l'agenda. c'était Rance World Vision. Petite pause pour continuer sur l'agenda. Rappelons que l'agenda de la semaine passée est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Qu'est-ce qu'on a ? Numérique Geek, création de jeux vidéo. Pendant les vacances, découvre comment créer un jeu vidéo sur ordinateur. Donc c'est pour les enfants à partir de 12 ans sur inscription. C'est un cycle de 2 séances. Donc il y a le mardi 9 octobre de 10h à 12h. Et le jeudi 31 octobre de 10h à 12h aussi à la médiathèque de Portes-lès-Valence.
Oh tiens, il y a un séminaire 50 ans d'Internet. Pour rendre hommage à la première connexion Internet établie, la Société informatique de France CIF, en partenariat avec le CNAM, le CNRSS, l'INSEE et l'INRIA, organise un événement spécial. Ce séminaire entend célébrer l'anniversaire de cette prouesse technique et technologie à travers l'intervention de plusieurs acteurs d'Internet, dont Jean-François Abramatic, informaticien pionnier du web, Louis Pouzin, informaticien...
Ah, Louis Pouzin.
Ah, ça te dit quelque chose.
Ouais, ouais, je l'ai croisé.
Informaticien pionnier d'Internet et Valérie ouais. Schaffer, historienne.
Donc c'est sur inscription.
Le mardi 29 octobre 2019 de 17 à 19h30 au Salon d'honneur dans les locaux du CNAM de Rue Comté à Paris. Ah, il faut aller à Paris.
Ouais, bah oui, c'est un peu loin, mais on a des gens qui nous écoutent qui sont pas loin.
Bien sûr. Et puis...
Ah bah, il y a la Chimie 13.
Mais oui, la Chimie 13.
C'est dans pas longtemps.
C'est oui, du 1er au 3 novembre.
Toujours en novembre, ouais.
Donc, il y a une ouverture du public le samedi 2 novembre de 14h à 17h. Avec une entrée à 2 euros. Donc, c'est à l'espace Roche-Gude de Tarn-Hermitage.
Et voilà.
Alors, on va frotter la boule de cristal pour l'astrologique. Allez, je frotte un peu. SF, je suis ton père. À nous deux, on fait la paire.
Oh, oh. 6 admin, je peux pas faire l'audit, j'ai une otite.
Hot school, Debian 6, c'est une distribution pour C64.
Nerd, messagerie instantanée. Ouvrez le sachet, versez de l'eau et c'est prêt.
Microsoft XP, ça veut dire extra pourri ?
Procrastinateur, pensez au lendemain, quelle fatigue !
Eh bien, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Retrouvez-nous en podcast sur Radio Méga, mais aussi sur
www.aaa.fr.
À très bientôt, la semaine prochaine, un sujet qu'on aura... beaucoup de satisfaction à vous délivrer, mais je ne vous en dis pas plus.
Peut-être que Doudou aura une idée. Il a dit qu'il avait une idée. Donc...
Je sais l'idée.
Ah, tu sais, d'accord.
Oui, je sais déjà. Donc, on sera très satisfait de vous en parler. À très bientôt.
À bientôt.
Salut.